Je passe la parole à l'OCDE, Alain Duperras.
Merci, bonsoir. Donc, je m'occupe du comité du tourisme à l'OCDE. Donc, l'OCDE, c'est avant tout une organisation économique qui travaille sur les politiques publiques. Et c'est vrai qu'à travers le débat qu'on a aujourd'hui sur la place du tourisme au sein de nos économies, en fait, c'est un débat qu'on a, nous, à l'OCDE, depuis une trentaine d'années. Le tourisme ayant été créé avec le plan Marshall qui a préfondé l'OCDE en 1948. Moi, je vais prendre a priori aujourd'hui une perspective un peu plus internationale parce que je pense que c'est intéressant de mettre le rapport aussi en perspective par rapport à ce que font un certain nombre de pays. Et moi, je trouve que quand même d'une manière générale, je pourrais dire ça en introduction, c'est qu'au niveau des pays de l'OCDE, donc des économies les plus avancées, hein, qui comprend des pays comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Corée et la plupart des pays de l'Union européenne, le tourisme a gagné en reconnaissance politique au cours de ces 10 dernières années. Et maintenant, on observe dans un grand nombre de pays de l'OCDE une prise en compte de plus en plus sérieuse du tourisme, non seulement comme instrument économique, mais également en termes politiques, et à savoir qu'il faut effectivement, pour conduire une économie du tourisme durable et compétitive, il faut une vraie politique du tourisme sur le long terme. Ceci dit, et donc, je voudrais commencer par remercier les auteurs du rapport parce que je pense que c'est essentiel qu'on ait ce type de rapport et que ce type de rapport soit non seulement réalisé par des gens qui travaillent 100% sur la problématique du tourisme, mais que ce soit également fait par des ingénieurs des mines, par exemple, dont, comme vous l'avez souligné, le tourisme n'est pas forcément au cœur des préoccupations. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Vous avez dit absent du débat politique. Je dirais oui et non, ça dépend. Mais dans un grand nombre de pays maintenant, il y a des commissions, par exemple, parlementaires tourisme, qui prennent un rôle de plus en plus actif dans le domaine du tourisme. Donc c'est partiellement vrai. Manque de considération stratégique, je pense que c'est encore vrai, d'une manière générale. Mais néanmoins, par exemple, si vous prenez les 34 pays de l'OCDE, je pense que vous avez les deux tiers des pays de l'OCDE qui ont des plans nationaux, des stratégies nationales du tourisme à long terme. Et ces stratégies ont été adoptées au plus haut niveau de l'État par les conseils des ministres et par les premiers ministres. Et je pourrais vous citer un grand nombre de pays comme ça. Et donc là, on peut dire qu'il y a vraiment un changement. C'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Et donc il y a vraiment un changement par rapport à ces visions stratégiques. Pointer du doigt comme signe de dégradation économique, je comprends à travers des exemples qu'on peut montrer ça, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette thèse. Et je pense que nous, à l'OCDE, on reconnaît de plus en plus que, on va dire, les services, en général, sont la part prédominante des économies et font tourner les économies des pays de l'OCDE. C'est vrai que le tourisme est pas en pointe par rapport à un certain nombre de services. C'est vrai qu'on a un débat, par exemple, par rapport en termes de valeur ajoutée dans l'économie. Et donc, on va peut-être plus privilégier les services bancaires, par exemple, et financiers que le tourisme. Donc, en ce sens-là, c'est vrai. Et donc là, il faut effectivement expliquer plus en profondeur ce que représentent les services touristiques dans l'économie et leur imbrication au niveau local et le fait qu'une économie, elle doit être multidimensionnelle, multiforme, si on veut que ce soit une économie compétitive. Et un certain nombre de pays l'ont réalisé. Et je pense que le débat qu'on a aujourd'hui, et je pense qu'on est assez clair par rapport à ça, c'est pas de faire une monoculture, de mettre le tourisme comme la priorité absolue de nos économies, mais simplement de dire le tourisme, c'est une économie essentielle pour nos économies et il faut lui donner la place qu'elle mérite au sein de nos économies. Et il faut montrer que, certes, on a peut-être besoin d'un certain nombre de services à très haute valeur ajoutée, comme par exemple les services financiers, mais que si vous avez des économies exclusivement dépendantes, par exemple, des secteurs financiers, comme on a pu le voir récemment dans certains pays, comme à Chypre, comme en Islande, comme dans d'autres pays, et donc on voit bien l'apport que peut amener le tourisme dans ces économies. Donc je pense qu'il faut nuancé. Et je trouve que ce rapport a le mérite de porter un grand nombre de sujets qui sont tout à fait vrais sur la place publique et, afin d'en débattre. Il y a peut-être quelques raccourcis et caricatures sur lesquels on pourrait, j'espère, on va discuter un peu plus. La question de la compétitivité, je pense qu'elle est essentielle. Vous commencez par ça d'ailleurs en citant les chiffres du Forum économique mondial. Bon, il faut savoir que sur ces chiffres, on a un vrai débat au sein des gouvernements et on est loin d'être d'accord sur ces ces histoires de classification des pays, etc. Et donc, nous, par exemple, en réponse à ces questions à l'OCDE, on a développé un système d'indicateurs pour mieux mesurer la compétitivité du tourisme dans les économies. La réalité, je pense que c'est, vous le disiez tout de suite, c'est que le marché mondial du tourisme est en pleine évolution, que l'économie française du tourisme est finalement une économie touristique avancée, qui est donc déjà en place depuis un grand nombre d'années, et qu'on a en face de nous un certain nombre de pays émergents qui, sur certains plans, sont beaucoup plus compétitifs que nous. Par exemple, la question des prix, par exemple, une nature vierge, etc. Et donc, nous, il faut qu'on trouve les outils pour se battre sur, par exemple, des questions d'attractivité ou des questions de compétitivité-prix qui se traduisent, comme on le sait bien en France, par améliorer la qualité des services, faire preuve d'innovation, enrichir la densité du produit touristique, etc. Tout un ensemble d'éléments qui sont importants. Je parlais tout à l'heure de la reconnaissance du tourisme par les pouvoirs publics et des progrès significatifs qui ont été réalisés récemment. Bon, vous avez mentionné le US Executive Order on Tourism qui a été pris par le président Obama, mais il faut quand même dire que ça a été très tardif. Et donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord d'opposer ça, par exemple, par rapport à ce qu'on fait en France, parce que quand même, en France, et on est loin d'être parfait, mais il y a quand même une reconnaissance du tourisme depuis un grand nombre d'années. Et bon, pourquoi Obama a fait ça? C'est sous la pression de l'industrie touristique américaine, qui comprend des poids lourds de l'économie mondiale, et après 2001, et avec l'idée qu'à travers le tourisme, non seulement bon, on allait pouvoir recréer des emplois, etc., mais on allait aussi pouvoir redorer l'image du pays. On a parlé plusieurs fois aujourd'hui de cette question d'image du pays et du rôle que le tourisme peut jouer comme vecteur d'image. Et maintenant, vous avez un certain nombre, par exemple, de ministères des Affaires étrangères qui s'emparent de la matière tourisme, comme ils le font de la matière culture, pour utiliser ces vecteurs, on va dire, pour faire de la diplomatie. Et donc là, on a vraiment une carte à jouer, et certains pays le font très bien, pour renforcer l'image du pays à travers le tourisme. Mais les États-Unis, ce n'est pas le seul. Bon, on a récemment eu une réunion avec le nouveau président mexicain, l'OCDE, qui met le tourisme comme une des grandes stratégies nationales pour le pays. Pas simplement pour le bonheur d'avoir le tourisme, mais simplement parce qu'il a fait un constat que le Mexique, même si le Mexique est en développement rapide, il y a encore, par exemple, une extrême pauvreté. Et par exemple, le tourisme peut contribuer, dans certaines régions, à booster l'économie. Le Japon a fait également le constat que pendant longtemps, le Japon, pour rééquilibrer sa balance commerciale, poussait les Japonais à partir à l'extérieur. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, ils ont inversé la tendance. Ils ont mis en place une vraie politique du tourisme en s'appuyant sur les bonnes pratiques des pays membres, justement, pour améliorer l'image du Japon, faire connaître le Japon à l'étranger et aussi attirer les emplois et compléter ainsi leur secteur industriel qui connaît aussi maintenant des problèmes qu'il n'avait pas il y a une dizaine d'années. Dans tout ça, je pense qu'il faut garder, bon, et dans le résumé, je ne l'ai pas trop vu, mais je pense que la question de la gouvernance du tourisme est quelque chose d'essentiel. Le tourisme est complexe, je pense que tout le monde l'a montré, et qui dit que, étant donné que la matière est complexe, il faut trouver vraiment les bonnes formes de gouvernance. Il n'y a pas de solution unique, comme ça a été dit, parce que chaque pays, finalement, a ses propres cultures, a ses propres règles, mais on aperçoit quand même un certain nombre de bonnes pratiques là-dedans. Et une de ces bonnes pratiques, c'est effectivement d'avoir des politiques plus participatives avec le secteur privé. Laurent, tu le disais tout à l'heure, le secteur privé est très mal représenté, plus participative avec les régions, les départements, pour ce qui concerne la France, mais aussi plus participative avec les autres politique du gouvernement. Et là, je pense que c'est un point essentiel qu'il faut garder à l'esprit, car le tourisme tout seul ne fera pas de la France une économie compétitive dans le domaine, mais il faut des politiques plus cohérentes avec, par exemple, les transports, avec, par exemple, la sécurité intérieure, etc. Et donc ça, c'est essentiel. Et on travaille beaucoup là-dessus au niveau de l'OCDE, étant donné que nous sommes une organisation horizontale et multidisciplinaire. Le mythe du laquais, bon, j'ai un tout petit peu de mal avec ce concept, même si je comprends tout à fait.
C'est un mythe français, c'est pas un mythe international.
Même si je comprends tout à fait ce qu'on veut dire, et je pense que déjà, c'est pas propre à la France. Un grand nombre de pays ont de vrais problèmes pour remplir l'ensemble des emplois du tourisme. Et il y a des pénuries de main-d'œuvre dans le domaine du tourisme qui sont, je pense, vraies dans la plupart des pays de l'OCDE. Hein. Et donc, là, on le sait, il faut qu'on améliore la qualité des emplois touristiques, qui passe par probablement une transformation progressive du produit touristique lui-même, des innovations, pour pouvoir finalement améliorer aussi la productivité du tourisme, payer mieux les gens qui travaillent dans le tourisme, leur donner des perspectives de carrière, ce qui n'est pas simple dans une industrie dominée par des micro-entreprises. Et donc là, il y a vraiment des politiques actives qui sont nécessaires pour renforcer tout ça et pour, en parallèle, de, bien sûr, de, d'expliquer que servir, c'est quelque chose de noble et quelque chose qui contribue à l'économie du pays. Et donc là, il y a quand même un certain nombre de politiques actives qui sont mises en place. Le tourisme n'est pas un secteur économique sérieux, j'en parlais tout à l'heure. Bon, c'est en train de changer et je pense que c'est en train de changer très rapidement. Et notamment, la crise économique contribue à ça. Par exemple, pour la première fois, l'OCDE, dans ses orientations stratégiques pour 2015-2016, met le tourisme, les industries créatives, le sport, la culture parmi des vecteurs de croissance importants, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est en train de changer, même dans des organisations comme l'OCDE, largement dominées par une pensée dominante sur l'économie. Et donc ça, je pensais pourquoi ? Parce que, bon, on le voit, il y a plusieurs pays qui ont mis en place des plans de croissance au niveau du gouvernement face à la crise. C'est le cas de l'Australie, du Japon, du Royaume-Uni, et qui ont inclus le tourisme comme un des vecteurs de la croissance. Les exportations, on parlait tout à l'heure des États-Unis, dans l'initiative d'Obama sur l'exportation, le tourisme est un des vecteurs aussi qui est porté, etc., etc. Je pense que, bon, par exemple, Laurent qui donnait l'exemple de Paris, je pense que Paris a bien compris le tourisme en tant que soutien à l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'exemples qui alimentent notre débat. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que je pense que peut-être un des messages, un des outils qu'on peut utiliser pour améliorer tout cela, c'est de dire que finalement, en développant des politiques actives dans le domaine du tourisme, on ne va pas simplement servir les visiteurs. Parce que souvent, un des débats, c'est pourquoi l'État doit-il s'occuper de tourisme ? Alors, on ne s'occupe pas d'automobile ou on ne s'occupe pas de l'industrie chimique, par exemple. Hein ? On ne va pas rentrer dans ce débat qui peut être très long, mais en faisant la promotion de l'économie des visiteurs, on sert également les résidents, et ça, je pense que c'est extrêmement important de le montrer, en développant des musées plus modernes, en développant les infrastructures de transport, on mentionnait la RATP, etc. Et on améliore l'attractivité de la place économique, et donc on attire davantage les talents, on attire davantage les investissements. Donc si on arrive à lier économie des visiteurs, les résidents et l'attraction des investissements, comme c'est fait dans certains pays, je pense qu'on aura gagné et on pourra aller de l'avant.